Oui, et c'est reparti pour la prochaine heure des amateurs de sport, heure au cours de laquelle on aura l'occasion de s'entretenir avec Danny Dubé, Martin McGuire également, qui a participé à l'exercice médiatique du Canadien aujourd'hui, donc des questions à Romanov qui était disponible, question de nous livrer ses impressions sur comment il s'était senti, comment il s'est senti dans son premier match l'autre soir, les propos de Claude Julien et de Philippe Dano également tout à l'heure. Mais d'abord, accueillons notre ami Maxime Lapierre. Bonsoir Maxime.
Salut Mario, ça va bien?
Ça va très très bien. Je voulais absolument te parler ce soir avec un angle bien précis. On parle beaucoup de joueurs de centre depuis le début de la saison, la ligne du centre. Oh non, on en parle, ça fait 30 ans, là, de la ligne du centre du Canadien, mais les rumeurs de Pierre-Luc Dubois nous amènent aussi à parler de la ligne de centre. Puis le match de demain, commençons par là, Canadien Edmonton. T'as été un centre toute ta carrière, Maxime. Jouer contre Connor McDavid, là, ça doit être tout un contrat quand tu te fais signer cette mission-là, comme Austin Matthews, mais là, parlons du match de demain.
Ouais, je pense qu'avec McDavid, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec Matthews à cause de sa vitesse. Écoute, j'ai vécu un peu ce sentiment-là, là, commençant junior, même dans la Ligue nationale, quand on me disait de jouer contre Sidney Crosby, tu sais. Parce qu'on, des fois, j'allais contre lui à cause de ma vitesse, juste essayer de le suivre tout le match, parce qu'on s'entend que si je sacrifiais mes statistiques offensives, ça changeait pas grand-chose dans la rencontre. Donc, je le suivais, puis c'est difficile, tu sais. Je pense que ça prend un système de jeu spécifique. Claude Julien ne peut pas rentrer dans le vestiaire demain et dire les quatre trios doivent bien jouer défensivement, nos trois paires de défenseurs, puis Connor, il fera rien ce soir. C'est impossible. On va s'entendre, on l'arrêtera pas, on va juste le ralentir un petit peu. Puis je m'attends, c'est sûr qu'on s'attend de voir un trio comme Dano, Gallagher, des gars responsables jouer contre lui. Puis je pense que Claude Julien l'a démontré dans le passé, il y a une grande confiance. Mais j'haïrais pas ça voir un gars comme Josh Anderson, un gros bonhomme qui patine très très bien, un gars comme Suzuki qui nous a démontré le premier match qui était très responsable défensivement. J'haïrais pas ça voir cette tête à tête là, ou bien plutôt les deux premiers trios qui s'affrontent dès le début du match.
OK, donc probablement que la ligne à Dano contre McDavid, c'est ça que tu suggères, ou pas nécessairement, ou la ligne là Drouin Suzuki contre McDavid, en fait ça devient notre trio numéro un là, s'ils produisent comme l'autre soir là.
Ben premièrement, je pense que j'ai aucun doute que Suzuki est capable de faire le travail. Maintenant, on s'entend que c'est un gros test. J'aime ce que Anderson peut faire. Juste pour une raison, Mario, c'est que Anderson va mettre beaucoup de pression sur les défenseurs. On sait qu'il est très physique. Puis dans ce temps-là, les défenseurs, c'est plus difficile de relancer l'attaque. Puis on s'entend qu'un gars comme McDavid, même Draisaitl, c'est ça. C'est avec ça qu'ils produisent, ces gars-là. C'est qu'ils reçoivent la rondelle de leurs défenseurs, puis ils partent. Tout le monde est pris à contre-pied. Donc, si on est capable d'avoir un Suzuki qui est troisième homme bien positionné puis qui se concentre sur sa défensive pour un match, puis un Anderson qui brasse les défenseurs de l'autre côté, peut-être qu'on peut trouver un petit quelque chose de ce côté-là. Mais mon sentiment, c'est que Claude Julien va y aller avec Dano. On sait qu'il fait grandement confiance à Dano, puis les mises en jeu aussi là, de commencer avec la rondelle, c'est un plus pour le Canadien.
Et McDavid n'est pas très, très solide en termes de pourcentage aux mises en jeu. Fait que t'as une grosse chance de partir. Puis c'est lui qui court après la rondelle. Si tu... En même temps, ça te permet aussi de peut-être utiliser, pour revenir à ton idée, d'utiliser Suzuki, parce qu'il se fera peut-être pas manger au centre, parce que c'est pas la force de McDavid. Matthews est meilleur que McDavid, si tu parles, en tout cas en termes de stats, juste pour gagner les face-offs, juste pour gagner les mises en jeu. McDavid, c'est tu veux juste pas qu'il touche à rondelle, parce que quand il est parti, il est dur à arrêter. On l'a vu hier soir.
Exactement. Puis comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, c'est que tu l'arrêteras pas. Il va trouver un moyen de créer quelque chose parce que ça a l'air facile pour lui de jouer au hockey. Puis hier, il y a eu une bonne soirée en plus. Donc la confiance est à son maximum en ce moment. Mario, c'est le positionnement. C'est tout aussi simple que ça. Si on pense prendre un risque, si on pense faire un revirement aux lignes bleues, si le troisième homme en zone offensive décide de peut-être tricher un petit peu parce qu'il voit une ouverture pour aller prendre un lancer ou s'ouvrir, ça fonctionnera pas. Ces gars-là, ils ont besoin d'une seconde. Une petite erreur, puis c'est reparti de l'autre côté, deux contre un, échappé, puis on l'a vu hier, là, on peut pas se permettre de faire une erreur sur la patinoire, c'est la même chose avec Draisaitl.
Claude Julien, demain, donc, prendra ses décisions par rapport à la façon dont il va jouer contre les Oilers, mais oui, il y a bien d'autres mondes à qui penser chez les Oilers d'Edmonton, Draisaitl, qui, d'ailleurs, ça me donne une idée, t'étais-tu là l'autre soir quand je racontais que McDavid et Matthews se sont entraînés ensemble cet été en Arizona, et j'avais pas remarqué ça, qu'on dit de Draisaitl, pour les gens qui l'épient de près, que c'est le meilleur gars de la Ligue à utiliser son revers, de toutes les façons, réception de passe, lancer, etc., et semble-t-il que McDavid et Matthews ont insisté auprès de Shane Doan, qui dirigeaient leurs entraînements en Arizona dans l'entre-saison pour pratiquer leur revers. Comme quoi les meilleurs chaque petit détail peut faire ultimement la différence, hein?
Ouais, il leur reste pas mal juste ça à améliorer, Mario, je vais te le dire. Là, je les regarde jouer, puis ils sont tellement beaux à voir. Mais oui, tu sais, même, tu parles du revers, mais si on regarde le premier but ou le deuxième but, là, en avantage numérique hier des Oilers, c'est une passe du revers soulevée de Draisaitl qui était incroyable. Puis McDavid qui arrive à pleine vitesse, déborde le défenseur. On sait le résultat final, un beau but, mais je veux pas sous-estimer ce joueur-là. Hein. Draisaitl, là, c'est une superstar de la Ligue nationale. Il a fini meilleur marqueur l'an passé. On le voit un petit peu moins gros peut-être parce qu'il est avec McDavid, mais il est pas loin derrière. Si tu regardes le but de McDavid, c'est une belle passe du revers de Draisaitl. L'autre but de McDavid, c'est un 360 de Draisaitl, encore une fois incroyable, une passe à la palette. Donc il est pour beaucoup dans les succès de l'avantage numérique, puis quand il est sur la patinoire avec lui.
Je veux revenir à la job de centre. Tu as été centre toute ta carrière dans la Ligue nationale. Tu nous parlais de tes premières mises en jeu contre Crosby. J'ai pas ces statistiques de ses deux premières saisons dans la Ligue, mais il est vite devenu un centre de au moins 50% d'efficacité. C'était quoi prendre une mise en jeu contre celui qui est devenu le meilleur joueur au monde?
Ben, c'est un challenge, c'est le fun, tu sais, parce que on a la chance de le battre à peut-être un endroit sur la patinoire, puis c'est dans le cercle des mises en jeu. Donc,
c'est bon,
mais
ça.
C'était pas mal la seule place, Mario. Mais tu sais, c'est un gars qui est tellement... Il se concentre tellement sur les petits détails, il veut être le meilleur dans tout, puis c'était lui sa force, c'est sa force physique. Tu sais, on parle souvent des mises en jeu, il faut gagner plus de face-off puis tout ça. C'est pas si simple que ça, Mario. Hein. Il y a un côté stratégique, il y a un côté que tu dois regarder contre qui tu y vas, est-ce que c'est un droitier, un gaucher, la force physique, l'endroit où la mise en jeu est sur la patinoire, si t'as l'arbitre d'un jambe ou pas, tu sais, de ton côté fort puis tout ça. Donc, quand on parlait là, cette semaine un petit peu que les joueurs de centre du Canadien, à part Dano, en arrachent d'une certaine façon sur les mises en jeu, on va le régler le problème, j'en suis convaincu, parce que faut pas oublier qu'on a deux jeunes joueurs de centre, même trois avec Evans.
Oui.
Ça, c'est de l'expérience, c'est du vidéo, de la pratique, des vétérans comme Dano qui te parlent justement, puis qui te disent « fais pas ça, fais ça », contre Matthews peut-être qu'il faut que tu y ailles avec cette technique-là. Donc, ça prend du temps, c'est la seule façon d'apprendre à être bon sur les mises en jeu. C'est pas ça changera pas du jour au lendemain, c'est de la pratique puis de la concentration.
Tu dirais que ça prend combien de temps au niveau de la Ligue nationale là, à devenir un bon centre, disons, des deux côtés de la glace, là, selon les styles, mais tu sais, de devenir un bon centre qui coûte pas de but à ton équipe, là?
Ben moi, je pense qu'un bon 2-3 ans, là, c'est d'avoir les entraîneurs de la Ligue nationale qui te perfectionnent, d'avoir les vétérans qui t'aident. Je pense qu'après 2-3 ans, là, c'est beaucoup essai-erreur aussi à une mise en jeu. Tu dois voir ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pas. Tu dois aussi... Oublie pas une affaire, j'ai le mentionné tantôt, c'est qu'après quelques matchs, comme Suzuki, par exemple, il a joué l'année passée, puis là, il joue cette année, puis à la fin de l'année... Mais il va y connaître les centres de la Ligue nationale de hockey. Il va savoir c'est quoi les tendances, puis il va s'ajuster, puis il va y penser tout l'été. Puis c'est là que quand t'arrives la troisième année, comme l'an prochain, ben là, tu vas voir une grosse différence.
Faut que tu te fasses battre par à peu près tout le monde une couple de fois pour savoir comment ils battent finalement, tu sais.
Hey, moi, je pense, là, dans mes premières games dans la Ligue nationale, mettons, dans les 10 premières games, là, j'avais affronté des Bobby Olick, Matt Sundin, Rob Brind'Amo. Je pense qu'un match contre Rob Brind'Amo, j'étais 0-22. J'en revenais pas. Quand je suis revenu dans le vestiaire, j'ai dit, voyons, donc, je ne gagnerai jamais un face-off dans cette ligue-là. Le gars, il est bien trop fort physiquement. Puis après ça, ben, les boys m'ont montré comment ça fonctionnait.
Mais ça peut te jouer dans la tête. T'sais, je me mets des patins de Evans. Il y a une chance incroyable de dire, hey, on t'offre une audition sérieuse à la quatrième ligne. Tu prends ton premier face-off de la game, boum, dans le but 3 secondes après. C'est sûr que c'est pas le fun, mais ça fait partie de l'apprentissage. Tu disais que Crosby était fort. Crosby, quand on le voit dans son uniforme, on pense pas à un gars fort, on pense à un gars talentueux. Fort à ce point-là?
Oui, fort à ce point-là, mais c'est surtout son éthique de travail, Mario. Une petite anecdote comme ça. Quand je suis arrivé à Pittsburgh dans l'entraînement, on prend toujours des mises en jeu après pour se pratiquer. Puis une des premières fois, je l'avais battu, mettons, sur une dizaine de mises en jeu. Je peux-tu te garantir que j'étais là jusqu'à la fin de l'année? Après chaque pratique, c'était sûr qu'elle allait me battre. Toutes les autres pratiques jusqu'à la fin de la saison pour être certain qu'il n'y ait pas de doute dans sa tête. Le gars, c'est un perfectionniste. Il veut gagner. Il veut être le meilleur. Puis c'est pour ça. Tu sais, c'est pour ça qu'il est en forme. C'est pour ça qu'il performe dans la Ligue nationale. Puis c'est pour ça qu'il est bon dans les petits détails comme ça. Parce qu'il accepte pas la défaite nulle part sur la patinoire.
Jusqu'à quel point tu connais personnellement Pierre-Luc Dubois? Je sais que vous l'avez eu à Poche Bleue, Guillaume et toi, Max, hein?
Oui, on l'a reçu. Je trouve tellement ça dommage ce qui se passe avec sa situation en ce moment. Je trouvais que c'était un gars calme, un gars relax, qui s'exprimait bien. Il avait pas l'air, tu sais, on s'entend, là, il y a pas le profil d'un gars qui dérange une équipe de hockey. Puis je trouve ça plate qu'est-ce qui se passe en ce moment à Columbus, qu'on essaie de régler le dossier d'un jeune joueur de hockey qui demande un échange sur la place publique. Parce que quand une équipe échange un joueur, est-ce qu'on fait un gros deal comme ça? Non. Si l'équipe te veut plus, par exemple, quand c'est le temps de te mettre dans les vidanges, ben, on te met dans les poubelles, puis on n'en parle pas nulle part, mais à l'opposé, si un gars est pas heureux, je crois qu'il a le droit, s'il l'a fait de la bonne façon, parce qu'on sait pas tous les détails, mais s'il est allé là, puis il a dit, moi, ça fonctionne pas à Columbus, mais pourquoi essayer de régler ça sur la place publique, virer tes coéquipiers contre toi, essayer de faire une grosse histoire, puis en même temps, je trouve que John Tortorella, il nuit un petit peu à son directeur général, parce que là, il est en train de presser les choses, là, il fait une situation, on s'entend, c'est bouillant, là, puis c'est dur pour les joueurs, les entraîneurs, le directeur général là, doit recevoir des appels à tous les jours, donc je trouve qu'il met tout le monde dans une situation assez ordinaire.
Ben, je comprends donc, et ça doit pas être facile à vivre. T'es pas surprise pendant que... T'as-tu une idée? Tu penses que c'est vraiment sa relation avec Tortorella qui fait qu'il veut partir de là? Puis s'il veut jouer dans un gros marché, c'est pas Winnipeg qui va satisfaire ses attentes par rapport à la grosseur du marché, mais tu penses que c'est vraiment la relation coach? T'en as vu, puis comment ça se passe dans la chambre? T'sais, tu nous parlais de la situation de Pietrangelo l'autre jour là, avec les Blues de Saint-Louis, mais c'est une situation contractuelle. Mais là, une situation comme ça où t'as l'impression que c'est un conflit entre un joueur puis un coach, puis c'est toujours... Ça doit être facile d'isoler un joueur dans une équipe parce que qui va... T'sais, c'est pas tout le monde qui va se mettre du bord du joueur quand tu sais que c'est lui qui s'en va puis que le coach reste, Max.
Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, ce qu'on a vu, nous autres, c'était la séquence. Je pense que tout le monde a pas mal la même chose en tête. Là. Ouais. C'est quand que les John Tortorella criait après Pierre-Luc sur le banc des joueurs. Mais on s'entend qu'il est arrivé quelque chose après, là, après le match. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui a continué l'histoire. Puis c'est peut-être aller plus loin. J'ai aucune idée. Mais je peux te garantir une chose, c'est que la nouvelle génération n'accepte plus ces comportements des entraîneurs. Puis les gars sont... À l'époque, on était gênés d'aller dire « je veux être échangé » ou « je suis pas capable de jouer pour cet entraîneur-là ». Mais plus aujourd'hui. Si Pierre-Luc Dubois était tanné puis il aime pas la relation, puis j'ai aucune idée si c'est à cause de sa relation avec Tortorella, mais j'ai un pressentiment que ça l'aide pas vraiment de se faire crier comme ça devant tout le monde. J'aurais aimé ça voir la discussion entre les deux, puis j'aurais aimé ça voir combien de fois c'est arrivé qu'on l'a pas vu sur la caméra, justement, que Tortorella est dur avec Dubois, parce qu'on le sait, c'est un entraîneur dur, il l'a fait hier soir avec Domi. En partant, premier match, un nouveau joueur de centre qui était supposé d'être le deuxième joueur de centre, on le fait jouer 12-13 minutes, une mauvaise relation en partant. Je trouve ça plate, puis je trouve que c'est souvent le même gars qui est pris dans une situation comme ça, qui est John Tortorella. Donc, en 2021, je pense que t'es capable de t'asseoir avec un gars. Alors là, c'est plus difficile avec la COVID, tout ça, mais d'aller manger avec lui, prendre un café, t'expliquer, moi, j'aime pas ça dans ton jeu. Toi, comme joueur, tu lui dis, moi, j'aimerais ça que tu me donnes plus de glace ou j'aime pas quand tu me traites comme ça devant les joueurs, puis on est capable de régler ça. Pourquoi faire un scénario de hollywoodien que c'est une grosse histoire comme ça quand un joueur a tout simplement demandé un échange?
Mais tu sais, souvent quand on voit ça dans NBA ou dans les sports, disons, ou dominés par les Américains, c'est facile. Tu sais, le gars passe souvent pour une grosse tête, le gars qui veut partir, t'es-tu d'accord?
Ouais, non, ça arrive souvent qu'on pense, on, tu sais, le
ouais, ouais. C'est comme facile, tu sais, il est tout seul, puis là tu connais pas l'histoire, personne parle, tu sais, puis ni l'équipe ni le joueur parle, tu sais, tout le monde garde ça sous le couvert. Fait que tu sais jamais.
Exact, la vérité, mais tu sais, Mario, ça prend du courage pour faire ça, aller dans le bureau. Je sais pas comment que c'est arrivé à Columbus, mais de monter au deuxième étage, mettons, puis dire, écoutez les boys, monsieur le directeur général, je suis plus intéressé de jouer ici. Ça, tu sais, faut que ça te tente pareil de le faire, puis il faut qu'il y ait quelque chose qui te dérange royalement pour faire ça. Je suis convaincu qu'il l'a fait pour les bonnes raisons. Je pense que à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il va avoir, il a le droit de faire ça. Moi, je pense pas que c'est un bébé gâté pour autant. Il va aller jouer dans la Ligue nationale, ailleurs, il va avoir du succès. On s'entend qu'il dit pas « moi, je veux aller en Floride sur le bord de la plage puis faire plus d'argent ». C'est pas ça le cas en ce moment. Il est juste pas heureux à un endroit puis il veut partir. C'est aussi simple que ça.
That's it. Et on a très hâte de voir la suite. Ça pique la curiosité de tout le monde dans la Ligue, le dénouement de ça. Et j'ai gardé le jeune Stutzel que tu as connu en Allemagne comme dessert. Il commence sa carrière dans la LNH ce soir avec les intrigants. Je dis les intrigants sénateurs d'Ottawa parce que oui, c'est facile de les mettre derniers dans la division canadienne. Mais en même temps, on a hâte de voir. Il joue contre Toronto ce soir. À quoi s'attendre de ce jeune homme-là? Je sais pas comment tu le prononces, toi, son nom de famille exactement. Toi qui es en Allemagne, peut-être tu l'as entendu, la prononciation originale?
Oui, mais nous autres, on m'a appris Stoudzle. Fait que, bon, on va y aller avec Stoudzle.
Tu vas être mon prof de phonétique, Max.
Exact. J'ai eu un bon petit cours privé à Berlin, mais je pense que ça va être un gars spectaculaire dès le départ. C'est sûr que parfois, avec un jeune comme ça, on l'a vu hier avec Lafrenière, faut enlever le premier match de l'équation parce que c'est stressant. C'est le premier match. T'es nerveux. Tu rentres dans le vestiaire pour la première fois puis tout ça. C'est sûr que ça a aucun impact sur le reste de la saison, mais au total, ça va être un gars qui va patiner, qui a du caractère. Je pense qu'on va le voir souvent là, dans les beaux jeux de la semaine puis tout ça, parce que il est tellement surprenant dans sa façon d'agir sur la patinoire. Mais en même temps, on l'a vu au championnat du monde junior, il y a un petit côté agressif, un petit côté caractère. Il est capable de donner une mise en échec quand il est fâché. Il est capable de casser son bâton si ça fait pas son affaire. Donc, il va nous amener une personnalité comme ça, une personnalité forte. Puis moi, je pense qu'avec les joueurs qu'on a à Ottawa, comme tu viens de le mentionner, là, je les avais mis dernier rapidement avant qu'ils fassent les acquisitions qu'ils ont fait dernièrement. Je pense qu'on a été chercher des bons vétérans. On a été chercher une certaine profondeur. Est-ce qu'ils vont faire les séries? J'en suis pas convaincu. Mais est-ce qu'ils pourraient nuire à plusieurs équipes dans le classement? Je crois que oui, parce que je pense qu'on a beaucoup de talent. Puis on a ajouté à tout ça des gars comme Stepan qui vont prendre les choses en main puis qui sont quand même bons dans les deux sens de la patinoire.
Hey Maxime, c'est tout le temps qu'on a, mais en tout cas, si jamais ça te tente, une carrière dans les médias après ta vie d'hockeyeur, là, t'es bon en maudit là-dedans. Hey, félicitations pour ta nomination à TVA. Je te regarde, tu fais bien ça à la télévision aussi, mais à la radio, ça a toujours une petite saveur particulière. Merci beaucoup, Max. Une excellente soirée. Bon week-end. Salut, tu regardes du football aussi, NFL un peu?
On va regarder ça, là. Pas le choix. Là, ça commence à être bon. C'est le seul temps de l'année que je regarde le football, c'est quand ça compte.
All right. Salut, Max.
Salut.
Bye-bye. Maxime Lapierre qui était là, 19h19, Martin McGuire et le résumé de la journée du Canadien aujourd'hui, des éléments d'entrevue, des extraits entre autres de Romanov qui va nous dire comment il se sent. On ne l'a pas entendu parler bien beaucoup depuis qu'il est arrivé à Montréal. Alors Martin, dans quelques minutes.